Montpellier, ma ville.
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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Montpellier, ma ville. Un rendez-vous qui vous fait part d'événements ou d'une certaine actualité de notre ville et ses environs, qu'elles soient sociales, culturelles, voire économiques. Et parfois, nous poussons notre curiosité sur des nouveautés qui n'ont pas un lien direct avec notre ville, mais qui méritent que l'on s'y penche, histoire d'en savoir un peu plus. Aujourd'hui, nous nous intéressons à trois sujets. Pierre Jovanovic, journaliste spécialisé dans les questions économiques, mène de nombreuses investigations. Dans 666, son ouvrage sorti en fin 2014, il dresse un portrait accablant sur le système monétaire international reposant sur le dollar. Aujourd'hui, Pierre Jovanovic publie à nouveau un livre qui parle une fois de plus du monde de la finance. Un livre qui aide à comprendre la seule politique menée par les économistes actuels, selon lui, qui a pour titre « L'histoire de John Law » et de sa première planche habillée qui a ruiné la France et qui continue à ruiner le monde aujourd'hui. John Law, un homme qui a mené une carrière publique assez brève entre 1716 et 1720, devenu monétariste qui a inventé le billet de banque ou la monnaie de singe, comme la qualifie Pierre Jovanovic. Il nous livre l'essentiel de ce nouvel ouvrage en dernière partie de ce rendez-vous. Pierre Jovanovic nous accorde un entretien par téléphone dans à peu près une demi-heure. Pour le second sujet de ce nouveau numéro, nous restons dans l'univers du livre, dans un registre complètement différent. En seconde partie, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios une auteure originaire d'Aix-en-Provence. Elle s'appelle Plume de Milizia. Actuellement, elle parcourt la France en train pour assurer la promotion de son nouvel ouvrage Plume de Milizia en notre compagnie dans quelques minutes. Pour l'heure, intéressons-nous à un événement, la commune de Latte, seule commune de notre département, qui accueille le dimanche 22 mai le marché des créateurs, un marché qui s'inscrit dans le cadre des journées nationales du Fémin. Un événement qui rassemble de nombreux créateurs de notre région. Lancé en 2011, les journées nationales du Fémin ont pour but d'instaurer un week-end dédié à la création et au savoir-faire français partout en France. Pour nous parler de cette journée, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie Janton. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous représentez l'association Africade.
Exactement.
Alors vous nous en parlerez dans un instant de cette association. Alors que nous réserve cette journée du dimanche 22 mai à Latte, plus précisément sur le port Ariane?
Exactement, c'est sur le port Ariane, qui est quand même un cadre exceptionnel et nous souhaitons aussi mettre ce port en valeur parce que nous y habitons. Personnellement, moi j'habite sur le port et je trouve que c'est quand même...
C'est vrai, le cadre est magnifique.
Le cadre est magnifique. Donc nous recevrons exactement 57 créateurs d'activités totalement différentes. Nous avons privilégié principalement la créativité, l'originalité et la diversité.
Ah ben justement, c'était ma question qui allait venir. Alors, pour bien sûr, ces artisans, ils sont là pour montrer leur savoir-faire et surtout développer également une économie plus humaine, n'est-ce pas ?
C'est exactement ça. Ce qu'on souhaite montrer par ce marché des créateurs, c'est non seulement le savoir-faire, mais mettre aussi en relation le public avec ces créateurs et qui vont nous montrer eux-mêmes comment ils font leur création. Et nous avons mis en place également des ateliers où les gens pourront peut-être participer ou voir la technicité de ces artisans.
Lors des précédentes éditions, parce que bon, ça a été lancé en 2011, quel a été le bilan enregistré? Vous avez un retour de ça?
Personnellement, non. Mais je pense que sur les statistiques que nous avons eues en retour de ALM, donc Little Market, c'est quand même, c'était excessivement positif et il y a eu une très grande progression depuis 2011 sur la participation des créateurs à ce genre de marché, ce qui était relativement intéressant et important pour nous.
Alors avant de nous détailler les différents créateurs présents lors de cette journée, ces artisans, ils sont retenus sous quels critères ?
Alors nous les avons retenus, comme je vous ai déjà expliqué un petit peu avant, sur un, la diversité, deux, la créativité et trois, l'originalité. C'était des choses importantes parce que nous voulons des choses que les gens n'ont pas l'habitude de voir ou sauf si vous voulez dans des boutiques très spécialisées. Donc là, l'important pour nous, c'était justement de mettre en contact ces créateurs un petit peu particuliers avec le public de façon à ce qu'on puisse voir quelle était l'immense diversité de ce qui se faisait actuellement en France.
Alors justement, quel type d'artisanat on va pouvoir donc découvrir?
Alors c'est très très varié. Donc nous allons aller du pliage d'origami par exemple au travail du bois ou au travail de la porcelaine. C'était nos critères de sélection justement de savoir c'était des choses totalement différentes les unes des autres.
Alors le travail du bois par exemple, ce sont des objets de déco ou des meubles? Est-ce qu'on peut parler d'ébénisterie?
Oui, alors il y a deux sortes. Il y a le travail du bois, il y a des artisans qui viennent, qui en font de la récupération de meubles en bois qu'on jette ou qui sont anciens et qui
les restaurent
et il est ce qu'on appelle ils font de la récupération et de la restauration de ces meubles anciens au lieu de les jeter. Bon, c'est relativement à la mode en ce moment, il y a plusieurs émissions qui le font et ils vont dans ce sens-là. Et d'autres qui travaillent le bois, nous avons un jeune homme qui fait lui des chevaux à bascule qui sont excessivement jolis, il a fait une moto à bascule que moi personnellement j'adore beaucoup et on peut le faire personnaliser au nom
c'est
de
original,
son...
C'est original la moto à bascule.
C'est original, oui, et c'est vraiment très joli. Très bien fait, les finitions sont parfaites, donc c'est vraiment très très varié.
Alors, il y a également des artisans du papier mâché.
Oui.
C'est un matériau donc de construction composé de plusieurs bandelettes de papier auxquelles on ajoute parfois des morceaux de textile pour le rendre plus solide. Ce sont des bibelots, c'est quoi au juste là pour le papier
mâché?
Là, ce
sont des bibelots, c'est plus des objets de décoration. Elle fait beaucoup de masques qui pourraient, moi je trouve qu'elle a une... moi qui ai vécu longtemps en Afrique, je trouve qu'elle a un côté... légèrement africain dans son inspiration de ses masques. Et elle fait, c'est vrai, beaucoup plus d'objets de décoration et d'objets... bon, je ne trouve pas le mot, mais je pense que des objets de décoration correspondent complètement à ce qu'elle fait.
L'origami, ça ne se voit plus, ça fait longtemps qu'on ne voit plus...
Alors que c'est un art très ancien, et c'est un art, peu de gens le savent, c'est un art chinois à l'origine, non pas un art japonais. Non, au départ, il était chinois et il a été récupéré par les Japonais, qui est devenu, maintenant tout le monde assimile, Japon et origami, parce que les Japonais donc, ont totalement récupéré cet art très ancien. Et
c'est l'art du pliage de papier.
C'est l'art du pliage de papier, et nous avons aussi des artisans qui font, on en a deux, qui ont des styles totalement différents. Et qui font des choses ravissantes. Ils font beaucoup de bijoux en origami. Donc ça, c'était vraiment très, très, très joli.
Des bijoux?
Oui, des bijoux, des boucles d'oreilles. Elles font en origami, qui sont très jolies.
C'est à voir.
Et voilà, c'est à voir. Et bien sûr, en plus aussi des objets de décoration.
Mais justement, ça peut être aussi un loisir créatif pour les enfants. De voir comment justement l'art du pliage du papier.
Voilà. Et nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup d'artisans maintenant font de la récupération. Et font avec des objets qu'on jette, font des objets. Et justement, ce jour-là, il y aura un atelier spécifique pour les enfants qui est tenu par une jeune fille qui a déjà fait ça à Biocibel à Lyon et qui prend un stand où ça fait déjà un mois qu'on récupère tout ce qu'il y a dans les poubelles jaunes qu'on a l'habitude de jeter. Et avec ça, les enfants vont pouvoir créer des objets. Et je pense que ça va être intéressant parce que ça permet de dire qu'on n'est pas obligé de tout jeter. Il y a des tas de choses avec lesquelles on pourrait peut-être faire des choses très intéressantes et qui pourraient servir aussi dans la vie de tous les jours.
Alors, il y a également des artisans qui font du linge de maison.
Oui, il y a des
couvre-lits.
Qui font des couvre-lits. Bon, il y a...
Confectionné à la main, bien sûr.
Bien sûr. De toute façon... Bon, moi, je fais du patchwork, je le fais depuis des années. Je l'ai fait en Afrique, bizarrement, ça peut paraître bizarre. Et j'ai créé un atelier à Niamey, au Niger, où j'étais, avec des jeunes femmes qui ont appris l'art du patchwork, parce que je mélangeais, du fait que je suis originaire de cette région, je mélangeais les tissus provençaux avec les tissus africains. Et ça a eu un succès extraordinaire, parce que tout le monde a dit que les tonalités étaient vraiment tout à fait complémentaires.
Alors, il y a même des artisans de supports de méditation, qui sont les mandalas.
Qui sont les mandalas? Oui, et c'est très philosophique parce que la personne qui fait ça a une approche de la vie et des problèmes actuels qui sont, moi je trouve, intéressants. Et j'espère que beaucoup de gens iront vers elle et pour pouvoir discuter avec elle. Parce que d'abord, elle va montrer comment elle le fait. Et en plus, c'est vrai qu'elle l'accompagne d'un discours qui est excessivement rassurant. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est important d'avoir des discours rassurants et non pas des discours dramatiques comme on l'entend de façon relativement constante.
Dramatique, on en a assez pour l'instant. Alors, il y a également le tissage de perles selon la technique des Indiens peyote.
Exactement. Aussi, nous avons ça, une jeune femme qui fait ça, qui a appris ça, qui a été plusieurs fois aux États-Unis et qui fait ce tissage sur un métier spécifique. Et là aussi, elle va le montrer. Elle va venir avec son métier pour expliquer comment les Indiens Peyotes faisaient ces magnifiques plastrons qu'ils avaient ou ces différents bijoux que les hommes portaient principalement plus que les femmes. Mmh.
Alors au programme de cette journée, il y a un barnum qui est prévu, réservé aux enfants pour leur faire découvrir des jeux, des loisirs qu'on a délaissés.
Non, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est des loisirs délaissés parce que de toute façon, ils vont créer des jouets avec des objets de récupération, ce qu'on trouve dans certains pays qu'on dit nous sous-développés ou les pays du Sud.
Ou en voie de développement.
Ou en voie, excusez-moi.
Donc ça veut dire qu'on les met en attente.
On les met en attente, exactement. C'est bien de m'avoir repris à ce sujet, tout à fait, en voie de développement. Et comme je vous disais, comme j'ai vécu en Afrique, je l'ai vu souvent, des tas d'objets que les enfants se servent pour créer des jouets.
Et quelle imagination ils ont.
Et quelle imagination ils ont. Et quel art. Parce que moi, j'estime que c'est un art.
Bien sûr.
Cette récupération.
Et puis, donc, pour joindre l'utile à la convivialité pour cette journée nationale du Fémin, alors, il va y avoir des animations. L'école de cirque Zepetra et l'association Kumbiamba vont animer le port Ariane.
Exactement.
Alors, l'association Kumbiamba, pardon, je l'écorche un peu. C'est
une association franco-colombienne. Donc, c'est un groupe. Ils sont à peu près une douzaine. Et ils font, quand on leur demande, comme ça, ils viennent faire des spectacles, de la musique et ils dansent en même temps. Donc, c'est vraiment... Enfin, moi, je ne connaissais pas avant. Je ne connaissais pas la danse traditionnelle de la Kumbiamba. Voilà. Et là, c'est vrai qu'ils vont nous le montrer. Et ils ont... Tout de suite, quand je leur ai demandé, ils ont été tout de suite... Ils m'ont dit, c'est une excellente idée et ça nous plaît bien parce qu'on voulait aussi cet échange culturel. Parce qu'on pense que c'est important en ce moment aussi de faire des échanges culturels et d'avoir cette musique colombienne. Voilà, connaître l'autre, c'est important.
Très important.
Et la musique passe par cette connaissance.
Oui, l'art, exact. Alors, comment faire pour connaître les détails de cette journée nationale du Fémin qui va se dérouler donc au port Ariane à Latte?
Bon, là, on se sert de ces instruments modernes que nous avons à notre disposition, que nous appelons Facebook, et sur lequel vous tapez sur votre ordinateur la journée du Fémin à Latte, et vous tomberez sur toutes les informations concernant cette manifestation.
Marie-Janton, vous représentez l'association Africade. Parlez-nous de cette...
Alors, cette association, c'est une association que j'ai montée quand j'habitais au Niger, puisque j'ai habité plusieurs années. Et je l'ai montée avec une amie à moi qui s'appelle Madame Fatima Maïga. Et cette association finance les frais de scolarité de jeunes filles nigériennes. C'est-à-dire que ce sont des jeunes filles que nous connaissons nous-mêmes. Je veux dire, c'est pas... Pour l'instant, il y en a 8. Et on les a pris à la maternelle et on les mènera jusqu'à la 3e. À la 3e, si elles sont douées, on les mènera jusqu'à l'université. Sinon, à la 3e, on va leur apprendre un métier de façon à ce qu'elle ait quelque chose et qu'elle puisse vraiment exploiter et s'en servir tous les jours pour leur permettre de vivre. Et voilà comment ça s'est fait. Et cette association, donc moi j'y vais une fois par an, puisque j'ai quand même gardé de très grands liens avec le Niger, que j'aime particulièrement. Et avec mon pays de cœur, et je le dis tout le temps, parce que c'est vraiment, j'ai habité dans plusieurs pays d'Afrique, et le Niger est vraiment le pays de mon cœur. Et donc avec cette personne, Fatih, nous nous occupons vraiment très très bien des enfants, c'est-à-dire que c'est nous qui payons la scolarité, c'est-à-dire que nous avons choisi une école, qui est une école privée, parce que l'enseignement est quand même un petit peu particulier, pas très bien encore organisé au Niger, où il y a encore relativement des problèmes. Et nous avons donc choisi une école privée, et nous payons, nous, en début d'année, les frais de scolarité pour ces enfants-là. Nous payons toutes les fournitures scolaires, nous payons les uniformes, nous recevons une fois par trimestre les bulletins scolaires, et comme ça, nous pouvons absolument cerner tous les problèmes qu'il peut y avoir avec les enfants.
L'association Africade, elle accompagne combien d'enfants?
Là, en ce moment, elle accompagne 8 filles et un garçon. Bachir, bon, il s'est trouvé qu'il faisait partie d'une famille que nous avions pris en charge. Donc, on ne pouvait pas dire non, on ne va pas prendre Bachir parce que c'est un garçon, ça aurait été malhonnête.
Aïe, aïe, aïe.
Mais il n'y avait qu'un garçon, donc nous l'avons pris aussi en charge. Mais je pense que ça va s'agrandir au fur et à mesure. Mais nous essayons de choisir les familles, d'abord les plus pauvres et les plus démunies. Souvent, les parents ne savent ni lire ni écrire. Donc, nous leur avons proposé et ils ont... Et je voudrais souligner que ces enfants sont musulmans. Je veux dire, je ne suis pas musulmane, évidemment, parce que je suis d'origine européenne, donc c'est moins courant, si vous voulez. Et les enfants vont dans une école protestante. Et nous avons proposé aux parents, on leur a dit attention, voilà, nous avons choisi cette école parce que nous savons que c'est la plus adaptée pour vos enfants.
Et la mieux structurée.
La mieux structurée où on aura le meilleur suivi. Mmh. Est-ce que vous acceptez ? Et les parents ont été tout à fait d'accord, ils nous ont dit c'est pour le bien-être de nos enfants, nous acceptons tout à fait.
Ils vont à l'école pour s'enrichir.
Ils vont à l'école et ils n'ont pas d'instruction religieuse. On a eu les autorisations spéciales.
Une école laïque.
C'est une école laïque.
Tout simplement.
Donc ce qui pour nous était une chose très importante. Après, libre choix des enfants de choisir leur propre, la propre suite qu'ils donneront à cette formation-là.
Il y a un critère de sélection vis-à-vis de ces enfants que vous accompagnez.
Non, il n'y avait pas de nom.
C'est les parents qui viennent vous contacter ?
Non, en fait, c'est des parents que nous connaissions. Mmh. Nous connaissions parce que nous habitions donc dans une maison et il y avait toutes les maisons ont des gardiens. Et dans ces gardiens-là, il y en avait deux que je connaissais, ils ne savaient ni lire ni écrire. Et moi, je leur ai proposé, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, moi, je peux vous apprendre à lire et écrire. Et ils m'ont dit d'accord, nous on est tout à fait d'accord. Et là, ça a fait un peu boule de neige et je me suis retrouvée avec 12 élèves au lieu de 2. Et c'est là, d'un seul coup, qu'on a trouvé qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose pour nous à ce niveau-là et on a pris en charge leurs enfants.
Eh bien, merci.
C'était avec plaisir.
Merci de venir nous faire découvrir cet événement qui s'inscrit et qui a pour but, en plus de nous faire passer un dimanche agréable entre amis, en famille ou en solo, un événement qui a pour ambition de participer à une économie plus humaine.
Je vous remercie. Je voudrais juste ajouter un petit mot à propos de l'école Zepetra. La personne qui va venir donc, jongle sur un monocycle et elle va apprendre aussi aux enfants à jongler. Ça fait partie aussi de nos jeux. Il y a un atelier qui sera prévu à cet effet-là. Et venez avec les enfants parce que c'est vraiment une journée conviviale et d'échange.
Eh bien, ne manquez pas le dimanche 22 mai, dimanche prochain, donc cette nouvelle édition de la Journée nationale du Fémin au port Ariane à Latte. Lieu privilégié par sa situation et son architecture vénitienne. On marque une pause. Juste après, je reçois Plume de Milizia, une auteure originaire d'Aix-en-Provence. Elle parcourt la France en train pour assurer la promotion de son nouvel ouvrage.
Merci.